L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Lubomira Rochet, qui est la CDO, Chief Digital Officer du groupe L'Oréal. Et Lubomira, on s'est rencontrés il y a 3 ans quand tu as pris tes fonctions. Et je me souviens très bien de cette discussion où je t'ai dit waouh quoi, enfin tu te rends compte de ce que tu es en train de faire parce que le challenge il est quand même énorme. Moi je travaille beaucoup avec le groupe L'Oréal, je connais quand même pas mal de monde dans le groupe, je fais beaucoup de sessions de formation, donc je vois bien ce qui se passe dans le groupe et dans différents pays. Je suis allé au Brésil, je suis allé en Roumanie, je suis allé en Russie, je suis allé dans plein de pays avec L'Oréal. Et waouh quoi, dur. Et tu m'as répondu à l'époque, ouais mais on aime les défis dans le digital. Et je voudrais savoir où est-ce que tu en es après 3 ans, justement.
Écoute, c'est un défi quotidien, ouais. C'est un défi quotidien, transformer un groupe de la taille de L'Oréal et sur toutes les dimensions, sur la dimension du marketing, sur la dimension du go-to-market avec le e-commerce, sur la dimension de la data qui est évidemment essentielle, sur la dimension du lancement de nouveaux services.
Ouais.
C'est vrai que ça peut paraître une tâche immense, mais qu'on a bien saucissonné. Donc en fait,
j'ai l'impression aussi.
On a mis en place un plan qui était assez clair avec 3 grands objectifs plus 1, avec des sous-objectifs, avec des KPI.
C'était quoi les 3 objectifs à l'époque?
Les grands objectifs, c'est vraiment l'accélération du e-commerce.
Ouais.
C'est l'accélération de la collecte de data et c'est la transformation des modèles marketing vers plus de contenu, plus d'influence et vers des formes de contenu nouvelles.
Et est-ce que vous n'êtes pas bloqué? Parce que la culture de L'Oréal, elle est quand même extrêmement forte.
Ouais.
Est-ce que vous n'êtes pas bloqué? Est-ce que la culture de L'Oréal et la culture qu'on a, enfin, on peut appeler ça comme ça, mais la culture du digital, la transformation digitale, c'est quand même beaucoup une question de culture. C'est d'abord d'ailleurs une transformation sociétale powered by digital qu'une transformation digitale per se. Comment vous y êtes pris pour la transformation? Enfin, je ne sais même pas si c'est fini d'ailleurs, mais comment vous êtes pris pour la transformation culturelle?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est la transformation digitale, c'est d'abord une question de culture, une question d'homme.
Ouais.
Aujourd'hui, tu sais, quand tu bosses dans un groupe comme le nôtre, je pense que la transformation digitale, c'est la mère de toutes les transformations. Pourquoi je dis ça? Parce que au fond, elle a donné les outils à tout le monde, y compris à nos consommateurs, de venir sur des territoires qui n'étaient pas les leurs et qui étaient souvent les nôtres. Aller faire de la co-création, aller faire des contenus, aller travailler avec nous, aller inventer des produits avec nous. Toutes ces choses qui étaient assez balisées et chacun avait un peu sa place. Aujourd'hui, les cartes sont hyper rebattues grâce au digital. Et donc du coup, pour un groupe comme le nôtre qui est fondamentalement consumer-centric, puisqu'on fait des produits pour les consommateurs, ouais. Des produits de beauté pour les consommateurs, c'était une évidence. Là où moi j'ai eu beaucoup de chance, et je le dis avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, c'est que je suis arrivée dans un groupe qui certes avait une culture centenaire, etc., mais qui est un groupe dont la culture est la permanente remise en question.
D'accord.
Donc c'est pas un groupe qui résiste au changement, au contraire c'est un groupe qui embrasse le changement. Je veux dire, L'Oréal, quand ça a commencé il y a 109 ans ou 110 ans, c'était un chimiste à Clichy qui a découvert une nouvelle façon de se colorer les cheveux qui était inoffensive pour les femmes et qui a lancé la coloration.
Ouais.
Bon, aujourd'hui on est le plus grand groupe de beauté mondiale sur tous les circuits de distribution dans 65 pays, et donc du coup on a pu faire ça que en se remettant en cause tout le temps la rentrée dans la grande distribution. énorme changement. La télé, énorme changement dans la communication. Donc ouais. Tous ces changements, on les embrasse avec passion. Et le digital, en fait, est qu'un changement parmi d'autres.
D'accord.
Qu'on embrasse avec beaucoup d'enthousiasme.
Et alors, du coup, comment vous y êtes pris pour la culture, pour le changement culturel ? Enfin, vous avez fait des formations, vous avez fait...
Je vais essayer de pas te faire trop d'anglicisme. On a plutôt capitalisé sur la culture de L'Oréal pour montrer à quel point le digital s'inscrivait dans cette culture.
D'accord.
Par exemple, il y a des grandes phrases, tu sais, dans les grands groupes comme ça, il y a toujours des grandes phrases un peu inaugurales. La première grande phrase, c'est saisir ce qui commence. D'abord, c'est une très belle phrase.
D'accord.
Et qui est une culture, enfin, qui est une phrase qui s'applique tellement bien au digital, puisque dans le digital, tu dois toujours essayer d'être en train d'essayer de comprendre ce qui va arriver pour essayer d'anticiper au mieux. Mm-hmm. T'as une autre phrase qui est hyper importante, qui est faire et défaire pour mieux faire. Ben ça, si tu mets de la data à l'intérieur de ça, tu deviens une compagnie agile et tu deviens une compagnie qui est data-driven et tu deviens une compagnie qui est itérative.
Ouais.
Donc en fait, nous, on s'est plutôt appuyé sur le terreau culturel, en fait, qui est hyper favorable à la transformation digitale. Et après, bien sûr, on a eu des enjeux, on a eu des challenges. Un, les silos, forcément. Les silos, quand tu poses dans un groupe de 80 000 personnes, tu as des silos dans tous les sens. Donc là, l'enjeu, ça a été de très vite rentrer avec des ways of working, avec des manières de travailler différentes. Donc nous, on a généralisé les hackathons. Alors on s'entend bien, c'est pas des hackathons au sens technique, etc. Mais on est arrivé avec cette proposition qui est de dire, en fait, on a un sujet business à craquer, on va mettre tous les stakeholders autour de la table, la com, le digital, le marketing, les ventes,
faire collaborer les gens, c'est pas mal,
faire collaborer les gens, à travers la mise en place, tu vois, à scale de ces méthodes là on a déjà quand même énormément fait bouger les cultures. Ensuite, on a fait beaucoup d'acculturation en start-up. On a emmené le Comex et tous les top managers en Silicon Valley comme il se doit. Mais ils y sont pas allés en mode touriste, tu vois, parce que sinon c'est le safari, quoi, la girafe par-ci, l'éléphant par-là. Là, on n'a pas été en mode touriste. Ouais, c'est ça. Oh, il est en jean. En fait, on n'a pas été en mode touriste, on y a vraiment été pour essayer de comprendre le terreau, en fait, de pourquoi ça se passe là-bas et comment ça se passe là-bas. On va beaucoup en Chine aussi.
Bah, j'imagine. Déjà, la Silicon Valley regarde la Chine, donc ça sera plus con de regarder la Chine.
Internet, juste, ils s'inventent en Chine. Hein.
Ah, enfin, donc, c'est une certitude.
J'en suis absolument convaincu.
Et je suis d'ailleurs, c'est marrant, j'avais une discussion là-dessus avec la fondatrice de China Connect.
Ouais.
Et j'étais surpris qu'il n'y ait pas plus de monde à sa conférence parce que, enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui parlent toute la journée de la Silicon Valley et il y a une conférence qui s'appelle China Connect à Paris qui est géniale sur du contenu sur la Chine et les gens ne viennent pas. Enfin, ils ne viennent pas. C'est pas qu'ils ne viennent pas, mais il y a beaucoup moins de monde que ce qu'on aurait pu attendre, en fait. Pour moi, c'est l'avenir du digital, il est en Chine, en particulier sur le live, sur le paiement par mobile, enfin, tout ça, quoi.
Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai. Et je pense que les gens ont tendance à ne pas le voir venir parce qu'ils se disent, ben, c'est l'écosystème chinois.
Ouais.
C'est des Chinois. Et ils viendront. D'abord, je pense qu'ils vont s'exporter. Tu prends Alibaba, juste AliExpress, ça commence à être juste un des premiers touchpoints e-commerce en Espagne, hein, ou en Russie. Mais au-delà de ça, je pense que moi, à chaque fois que je vais en Chine, et j'y vais souvent, je suis frappée à quel point c'est le pays le plus consumer-centrique. Alors, ils ont des consommateurs qui sont hyper digitaux, qui sont hyper mobiles. Qui ont, comme
dans les grandes villes, quoi. Enfin,
ouais, même en fait, partout, ils ont tous des mobiles. Ils achètent, fondamentalement, il n'y a pas de distribution au fin fond de la Chine. Donc, Alibaba, c'est un peu Byzance, quoi.
Alibaba.
C'est Alibaba. Et donc, du coup, il y a une familiarité avec l'usage, et notamment l'usage du mobile, qui est dingue. Mais au-delà de ça, il y a une anecdote, un truc qui m'a hyper marqué, tu sais, ils ont l'équivalent du Vélib, donc ils l'ont développé des années après nous, mais par contre, du coup, c'était quand même des batchs de 100 millions de